milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Aujourd'hui, des mathématiques avec le professeur Gérard Sansfaute. Bonjour professeur Sansfaute.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. De vous retrouver.
Ah voilà, on vous entend mieux professeur Sansfaute. Avec vous, les enfants vont apprendre aujourd'hui à fabriquer un dé à jouer. Alors on ne va pas perdre de temps, on va tout de suite expliquer le matériel qu'il faudrait avoir sous la main pour commencer à le fabriquer pendant l'émission. Des feuilles de papier, bien sûr, si possible du papier assez rigide, parce que ce sont des feuilles que l'on va plier pour faire un cube, hein, puisqu'un dé à jouer, c'est bien un cube quand même, Gérard.
Ah ben, oui, disons que quand on parle de dé à jouer, c'est un objet réel qu'on fabrique, alors que le cube, c'est le volume dont on parle en mathématiques. Comme on parle du pavé, du cylindre, de la pyramide. Donc le dé qu'on va faire, c'est un objet réel.
Voilà, et qui va nous servir à jouer. Alors bien sûr, il faut des stylos, des crayons, un papier, une règle, une équerre si c'est possible, et de la colle. Voilà, tout ce qu'on peut trouver dans la trousse d'un écolier à peu près garni.
Et même des ciseaux.
Et des ciseaux,
exact.
Voilà. Évidemment, ça sera l'occasion de faire un petit peu de calcul, un dé pour jouer ensuite au jeu du banquier. Mais il vaut mieux aussi prévoir de vrais dés hein, pour jouer au jeu du banquier. Ça peut servir hein, en ces temps de crise de devenir banquier. Surtout qu'enfin...
Mais jouer avec un dé qu'on a fabriqué soi-même, c'est super. Hein. Les enfants, ils sont contents de jouer aussi avec leur propre dé qu'ils ont fait eux-mêmes.
Ouais. Alors il faut qu'il soit, il faut qu'il roule bien, évidemment. Hein. Vous allez nous donner tous les petits trucs pour que le dé fonctionne bien. Et en fin d'émission, avec le coach Didier à côté, nous verrons comment construire un modèle économique, puisqu'on parlait de banquier, hein, indispensable à toute entreprise commerciale. Mais je ne vous ai pas encore annoncé l'histoire du jour, et pourtant les enfants, vous êtes nombreux à la réclamer. Aujourd'hui, c'est une histoire de... Non, allez, je ne vous dis rien. Je vous dis juste le titre, « Le pagne aux oiseaux blancs » d'Elisa Vilbrun pour Planète J'aime lire chez Bayard Afrique. Et bien sûr, derrière mon micro, il y a toute l'équipe qui réalise l'émission chaque jour en confinement et en studio. Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Nicolas Benita, Romain Dubrac. Et les enfants, vous faites aussi partie de l'équipe. Vous nous laissez des messages chaque jour. Vous envoyez des dessins qui sont absolument formidables. Des photos de vos réalisations aussi. Et puis, vous racontez ce que vous apprenez. Pour ceux qui ont loupé l'émission, ça peut servir. Allez, je rappelle notre numéro WhatsApp. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. On est ensemble.
Tout le monde est voisin. 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins sur RFI.
Bonjour 7 milliards de voisins. Je m'appelle Robungé Francisca. J'habite à Yaoundé. Je fais la classe de CM1 et j'ai 9 ans. J'ai retenu le cours qu'on a fait avec la voisine Sarah, qui parlait sur les montres et l'heure. Pour faire une montre, on trace un rond, puis on écrit 12 en haut, 6 en bas, 9 à gauche, 3 à droite. Puis on trace 1, 2, on trouve 3, 4, 5, on trouve 6, 7, 8, on trouve 9, 10, 11 et on trouve 12. Puis on met 4 petits points. Car il y a 5 minutes d'écart entre les minutes 1, 2, 3, etc. Bye!
Bye Francisca, mon petit doigt m'a dit que tu avais 10 ans aujourd'hui. Alors on te souhaite tous, toute l'équipe de 7 milliards de voisins, l'école à la radio, te souhaite un joyeux anniversaire Francisca. On écoute un autre voisin qui a posté.
Bonjour Tata Emmanuel avec Monsieur Gérard Sansfaute. Je m'appelle Farid, j'ai 9 ans. Je suis au CE1. Je suis content d'écouter vos émissions, surtout le partage de bananes entre les 4 chimpanzés. Merci beaucoup. Au revoir.
Et merci à toi, Farid, 9 ans. Ça, c'est pour vous, Gérard, hein, le partage de bananes entre les bébés chimpanzés. Ça a eu beaucoup de succès. Entre celui qui, le bébé chimpanzé qui voulait tout partager, celui qui était l'aîné qui en voulait quand même un peu plus, celui qui est le plus fort, qui veut tout manger, des maths et puis un dilemme philosophique pour savoir qui a raison. C'était une leçon mémorable, Gérard.
Oui, bah, c'est bien. Bah, j'espère que ça a amené des discussions entre tous ceux qui nous ont écoutés.
Oui, en tout cas, on a reçu beaucoup de messages. Allez, un voisin indonésien qui est à Jakarta.
Bonjour les voisins et les voisines, je m'appelle Erwin, je suis indonésien. Je suis content d'écouter 7 milliards de voisins et des voisines, surtout pendant les pandémies du coronavirus, parce que ça m'aide beaucoup d'apprendre le français, faire les programmes, l'école à la radio. Merci beaucoup 7 milliards de voisins et les voisines. Bonne continuation.
Bravo à Erwin, ce voisin en Indonésie. Hier, on a parlé des interjections en grammaire qui se terminent toujours par un point d'exclamation. Une leçon bien comprise par Ibrahima qui est au Sénégal, à Mbourg. Il a 12 ans et il écrit « Dans ma petite chambre bien éclairée, je cherchais mon stylo bleu et une boîte de craie. Par mégarde, elle est tombée. Aïe ! Elle m'a blessé au pied. Oui, ça fait mal. Mais heureusement, maman m'a fait un massage sur la table. Ah, oh, que c'est bon. Ça me soulage. » Voilà. On en a reçu plein comme ça, des messages avec des interjections. Ils ont adoré. Pape Laurent est au Sénégal également. Je suis enseignant en classe de CM2. Et je suis avec intérêt l'émission avec une Marie-Christine formidable. On va lui transmettre, hein, Pape. L'occasion de revoir des notions pour mes élèves. Heureusement, la reprise pour les classes d'examen et pour bientôt au Sénégal. Et on vous le souhaite, hein, à vous tous au Sénégal, les voisins. En principe, ça devrait commencer à réouvrir à partir du 2 juin. Isaac Leno est à Cancan, Guinée-Conakry. J'ai pu, à travers les cours d'hier, comprendre les prépositions. Je m'exerce avec d'autres enfants qui n'ont pas la possibilité d'écouter l'émission. Allez, vous continuez de poster au 33 1 84 22 71 71. C'est l'école à la radio.
Sept milliards de voisins.
L'école à la radio.
Gérard Sansfaute, professeur de mathématiques pour l'école à la radio, enseignant pendant plus de 40 ans en école primaire. Gérard Sansfaute, donc, comment fabriquer un dé à jouer ? C'est pour les plus de 8 ans ou bien pour des plus jeunes qui sont aidés par des grands frères et des grandes sœurs ?
Oui, disons que c'est plutôt pour les plus de 8 ans et les plus petits pourront se servir des dés. Mais les autres, ils peuvent se faire aider. Mais pour le matériel, ce que je voulais dire, c'est si vous n'avez pas d'équerre, vous pouvez la fabriquer avec une feuille de papier. C'est ce que je disais à mes élèves. Pour avoir une équerre, on prend une feuille de papier, on la plie en deux, n'importe comment, on marque bien le pli, et on replie une deuxième fois en mettant le pli sur le pli. Donc, si on plie sa feuille deux fois en deux, on obtient un angle droit qu'on peut marquer avec un petit carré à l'endroit de l'angle droit. Voilà. Alors, ceux qui n'arrivent pas, ils peuvent se faire éventuellement aider pour se faire fabriquer cet équerre. Voilà. Donc, pour le fabriquer, vous connaissez le cube. Hein, vous les avez manipulés à l'école, dans les toutes petites classes. Et vous savez que pour le cube, il y a 6 faces carrées. Hein, il y en a une au-dessus, une en dessous, une devant, une derrière, une à droite, une à gauche. Des sommets, vous savez, les petites pointes, il y en a 4 en haut, 4 en bas, ça fait 8. Et pour les côtés des carrés, si vous vous appliquez à les compter, vous arriverez à 12. Oui. Et ces côtés s'appellent les arêtes.
Voilà. Alors vous pouvez vérifier, les enfants, chez vous. Si vous n'avez pas de cube dans la maison, vous avez forcément un paquet de quelque chose, un paquet de pâtes, de nouilles, de lessive. Certes, ça ne sera pas un carré, ça ne sera pas un cube, ça sera un pavé, ça sera rectangulaire. Mais vous verrez qu'il y a exactement le même nombre de faces, le même nombre de sommets et le même nombre d'arêtes.
Donc, ce que nous allons faire, ça va être un solide en 3 dimensions, en volume. Mais nous n'avons que des feuilles de papier. Alors, du papier assez rigide pour que ça soit assez solide. Alors, nous avons l'obligation de dessiner le patron. Alors, le patron, c'est un peu le développement du cube sur une feuille qui permettra de reconstituer le volume en pliant, par
voilà,
pliage.
C'est exactement quand on va chez le tailleur et qu'on veut faire faire des vêtements. Le tailleur, en général, il a d'abord fait le vêtement à plat sur du papier qu'il a découpé.
Voilà. Alors, nous allons développer le dé sur une feuille à plat et après, on le reconstituera en volume par des pliages. Voilà. Alors, pour faciliter la fabrication, notre dé, on va le faire un peu plus gros que les dés habituels parce que ça serait trop minutieux de le faire petit comme les dés réels. Alors moi, je propose de mettre 4 cm de côté pour chaque carré. Oui. Il sera un peu plus gros. C'est ce que je vous conseille, mais vous faites les dimensions qui vous arrangent. Alors, pour la fabrication, comme il y a 6 faces, il faut forcément dessiner 6 carrés.
Oui.
Alors, au départ, on se dit, on va dessiner 6 carrés séparés, les découper séparément, les assembler. C'est une façon qui serait possible, mais l'assemblage, il serait trop compliqué. On aurait nos 6 carrés éparpillés, mais si certains veulent essayer, ils peuvent essayer et nous dire les difficultés qu'ils ont rencontrées.
Oui, ça serait compliqué à coller ensuite.
C'est compliqué.
Alors,
voilà.
Vous nous proposez un patron efficace pour construire ensuite un cube de papier, finalement.
Voilà. Et dans notre patron, les carrés vont se toucher. Et des patrons, si on les cherchait tous, il y en a même 11 différents. On pourrait même s'amuser à chercher les 11 patrons qui existent, mais c'est un peu compliqué, à trouver. Mmh. Et moi, je ne vais vous proposer qu'une sorte de patron.
Oui. Alors moi, la feuille de papier, j'ai mon bic, et donc on commence à dessiner les carrés. Dites-nous comment on procède, Gérard, pour ensuite pouvoir plier et faire le dé.
Alors tout d'abord, pour dessiner le patron, vous allez dessiner à main levée. Vous n'allez pas le faire encore avec la règle, les angles droits, ça serait trop long. Là, vous allez le faire à main levée et vous le referez bien avec les angles droits, avec les bonnes longueurs, après l'émission.
D'accord.
Donc là, c'est sans la règle, vous tracez. Alors, vous allez tracer une barre de 4 carrés. Alors, j'explique.
Donc,
vous dessinez d'abord
une barre verticale, hein, il faut donner comme indication peut-être, ça va nous aider.
Voilà, hein, qu'elle soit bien verticale.
Voilà, ça va être des carrés qui vont être les uns sous les autres.
Voilà. Alors, vous dessinez d'abord le premier carré. Allez-y, et vous écrivez 1 au crayon à papier à l'intérieur, parce qu'il faudra le gommer après.
D'accord.
Ensuite, un deuxième carré dessous qui touche le premier.
D'accord, je suis en train de faire mon deuxième carré en dessous et j'écris le chiffre
2 à l'intérieur.
D'accord.
Un troisième carré encore sous le deuxième.
Oui. Troisième carré,
et vous écrivez
le chiffre 3.
Donc, ils se touchent à chaque fois.
Ouais, ouais.
Voilà, ils sont les uns en dessous des autres.
C'est ça.
Et enfin, un quatrième carré en dessous avec le numéro 4. Et en principe, voilà, nous avons notre barre de 4 carrés. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a que 4 carrés et il en faut 6. Alors, au deuxième carré, celui où vous avez écrit le numéro 2, vous lui placez un carré de chaque côté.
D'accord.
Alors, vous en dessinez un à gauche qui touche ce deuxième carré et un à droite qui touche ce deuxième carré. Et on a notre patron. C'est déjà une bonne chose.
Ah ben, ça ressemble à une croix.
Voilà, et on l'appelle la croix latine. C'est ça.
C'est ça, c'est la croix de Jésus-Christ.
C'est à la forme. Voilà, tout à fait.
Alors, on a donc nos 6 faces hein, sur le patron.
On a donc nos 6 faces sur le patron. Et maintenant, pour pouvoir l'assembler, il va falloir placer aux bons endroits des languettes qui vont servir à assembler les faces, à coller.
C'est ça. Alors, c'est sur les languettes qu'on mettra la colle. Alors, donc, voilà. Des petits rectangles, des petites languettes. Alors, on les met où, les languettes, Gérard ? Sur quel carré ?
Alors, il y en a 14 qui sont possibles. Parce que si vous regardez votre patron, si vous comptez tous les côtés qui sont à l'extérieur, on va les compter ensemble. Alors, j'en compte. Vous faites tout le tour de votre patron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si vous avez bien compté,
je trouve la même chose.
14, ouais. 14 endroits pour placer les languettes. Mais si vous réfléchissez bien, quand on va plier notre patron, les 14 languettes ne sont pas toutes utiles. Donc vous devrez, quand vous aurez toutes vos languettes, vous devrez réfléchir et chercher
à celles qui vont se retrouver superposées et qui ne servent à rien. C'est ça.
Voilà. Quand il y en a deux superposées, ben on peut en supprimer une des deux.
D'accord.
N'importe laquelle des deux.
Alors ça, c'est un bon exercice que les enfants peuvent faire pendant que vous continuez, c'est ça qu'ils peuvent faire après l'émission ?
Ils vont pouvoir continuer pendant qu'on expliquera le jeu des banquiers aux plus jeunes. Mais j'ai encore peut-être des petites choses à leur dire qu'ils feront à la fin. À la fin, vous devrez aussi dessiner sur chaque face les ronds. Vous savez, sur chaque face, il y a soit un rond, deux ronds, trois ronds, quatre ronds, cinq ronds ou six ronds.
Exactement.
Il faudra les dessiner sur chaque face.
Ça veut dire qu'on a gommé tous les chiffres que vous nous avez donnés, 1, 2, 3, 4. Hein. Là, c'était juste pour vos explications. Et ensuite,
voilà.
Quand ça, c'est juste un patron. Quand on va refaire vraiment les carrés très beaux avec l'équerre, etc., sur une feuille un petit peu plus rigide, là, vous conseillez de faire d'abord le pliage, d'assembler le cube. Et ensuite, on va mettre les points, c'est ça. Hein. Mais on ne met pas les points n'importe où. Attention, on ne met pas n'importe quel nombre de points sur n'importe quelle face.
Ah ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait la somme des points sur deux faces opposées, c'est-à-dire qu'ils sont l'une en face de l'autre, on obtient toujours 7.
Eh bien, vous savez qu'on n'avait pas remarqué du tout avec Nicolas Benita. On s'est posé la question et on n'avait pas remarqué. Effectivement, donc, sur les dés, le total des deux faces opposées, c'est toujours 7.
Oui, alors si vous mettez un rond sur une face, vous allez tout de suite sur la face opposée et vous en mettez 6.
Voilà, et ça fait 7. Et alors, si on a deux sur une face, il y a deux ronds sur une face, sur la face opposée,
on en met 5 égale 7.
C'est ça, voilà.
Donc
si
on en met 5.
S'il y a 2 points sur une face, sur la face opposée, on en met 5. Et s'il y a 4 points sur une face du dé, sur la face opposée aux 4, eh bien, il faut qu'il y en ait 3 pour avoir toujours 7 au total.
Voilà.
C'est ça, le total des deux faces opposées. Bon, vous pouvez réécouter l'émission hein, si ça va un peu trop vite, mais vous verrez, vous prenez un dé et vous allez vous rendre compte de cette réalité. Alors, ce dé, vous nous avez dit au début de l'émission, Gérard, mais oui, mais on peut jouer avec ce dé une fois qu'on l'a fabriqué. Normalement, il fonctionne.
Alors, il fonctionne et on peut le tester quand vous faites les jeux. Ben, on va parler du jeu du banquier. Vous pourrez rejouer au jeu du banquier, mais vous jouez aussi au jeu de loi et à d'autres jeux. Vous pourrez les tester. Mais attention, quand vous allez tester vos dés, si le dé n'est pas très bien construit, s'il y a des défauts, on dit quelquefois que le dé est pipé. Alors, s'il est pipé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il tombe parfois trop souvent sur la même face.
Mmh.
Imaginons que le dé, on a mis trop de colle sur une face.
Oui.
C'est plus lourd. Cette face, elle aura tendance à se retrouver plus souvent en bas.
Et
peut-être
oui.
pas à chaque fois.
Oui. Et comme
souvent.
Par hasard, ça peut tomber sur le 6, hein, on dirait.
Ah ben, si le 6, on a mis plein de colle et qu'on a mis beaucoup de couleurs lourdes, il va devenir lourd. Il sera en bas et c'est le 1 qui apparaîtra de l'autre sur l'autre face.
Ah oui, alors là, c'est l'inverse, oui. Enfin, en gros, si on est un tricheur habile, on peut piper un dé. Ça, si on le construit soi-même.
Ah ben, les tricheurs cœur, ils ont des dépités où il y a un poids à l'intérieur. Voilà, donc c'est à vous de tester votre dé, voir s'il n'est pas pipé, et le lancer plusieurs fois pour voir si toutes les faces sortent bien. Voilà, c'est une façon, de tester votre réalisation. Et tous ceux qui fabriquent des objets, teste toujours à la fin, que voilà. Ce soit n'importe quel objet.
Alors là, en tout cas, vous avez le patron, donc vous avez tout pour réussir le dé ensuite avec un papier légèrement plus cartonné. Pour les plus jeunes, on joue au jeu du banquier, Gérard, vous nous avez promis, puis on a envie de devenir riche.
Voilà. Alors, le jeu du banquier, ça, c'est un jeu, on peut commencer à jouer, alors c'est pour les plus jeunes, ceux qui sont au CP, on peut jouer avec eux au début, mais après, quand on le fait en classe, les enfants sont autonomes, ils y jouent tout seuls. Mmh. Alors, il faut deux dés à jouer. Donc là, si on prend des dés fabriqués, il faut en fabriquer deux. Et il faut au moins trois joueurs. Il y a forcément un banquier et deux autres ou plus. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'être le premier à avoir 100 francs CFA. Dès qu'on a 100 francs CFA, on a gagné. Mmh. Et dans le matériel, en plus des dés, le banquier, il a trois sortes de billets qu'il faudrait fabriquer. Mmh. Des billets de 1 franc CFA, des billets de 10 francs CFA et des billets de 100 francs CFA.
Ouais. Alors 100 francs CFA, ça fait pas lourd, hein. Ça fait quelques centimes d'euros, mais enfin, on ne peut pas compliquer dès le démarrage, hein, parce qu'il faut habituer les enfants à jongler avec les zéros, avec les dizaines. On peut faire un début de partie pour montrer aux enfants comment on y joue
tout
à ce
fait.
Jeu du banquier.
Ouais,
donc au moins deux joueurs et au moins évidemment un banquier.
Alors moi j'ai des dés, je les lance et j'ai un total de 6. Donc le banquier me donne 6 billets de 1 franc CFA.
Ouais.
Donc, c'est le banquier qui distribue l'argent.
D'accord. Alors, on se fabrique des petits billets et
Emmanuel.
On vous distribue 6 billets. Moi, je lance le dé et le total est de 11. Donc,
alors,
je reçois un billet de 10 francs CFA, puisqu'il a des billets de 10 francs CFA, hein, le banquier.
Voilà.
Ouais. Je reçois un billet de 10 francs CFA et je reçois un billet de 1 franc. Et donc, on arrive à 11.
Alors, dans le jeu, on joue chacun son tour. Et à chaque fois, on reçoit des billets. Celui qui va gagner, c'est celui qui sera le premier à avoir 100 francs CFA. Et le rôle du banquier dans ce jeu, quand un joueur a trop de monnaie, par exemple, s'il a plus que 10 billets de 1 franc, il lui prend les 10 billets de 1 franc CFA, et en échange, il lui donne un billet de 10 francs CFA.
Alors, si on ne maîtrise pas bien les dizaines, l'enfant peut dire au banquier « Mais tu es en train de me voler, tu m'as pris 10 billets, tu ne m'en redonnes qu'un seul. » Sauf qu'il y a une différence de zéro.
Alors, c'est pour ça, oui, il faut se méfier du banquier pour voir s'il ne prend pas trop de billets contre son billet de 10 francs. De 10 francs CFA. Il faut toujours contrôler. Et une fois que le jeu est compris, les enfants, même les plus petits, peuvent jouer tout seuls. Et à la fin, quand un enfant pense qu'il a 100 francs CFA, quand il compte devant lui tout ce qu'il a, il le dit au banquier. Le banquier échange contre un billet de 100 francs CFA et il a gagné.
Voilà. Et évidemment, au fur et à mesure, plus il échange ses billets contre des billets de 10 francs CFA, plus c'est facile de compter et d'additionner les billets de 10 francs CFA. C'est plus simple pour arriver à 100 que d'additionner des billets de 1 franc CFA. Là, ça en ferait vraiment beaucoup étaler devant soi. Tout ça, finalement, Gérard sans faute, c'est pour habituer les enfants à construire les dizaines, hein.
Ah bah tout à fait, chaque billet de 10 francs c'est une dizaine. Mmh. Donc il y a une dizaine, après il voit qu'il a deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines quand il a quatre billets de 10 francs, donc il compte 10, 20, 30, 40, 50 et il continue jusque 100. Et il l'emploie dans les mots, dans leurs échanges, en faisant ce jeu.
Ouais. Donc, alors, on va, il nous reste très peu de temps, Gérard, mais je voudrais quand même qu'on puisse donner un petit exercice aux enfants. Alors, pour les plus petits, comment obtenir 10 avec 2D? On peut obtenir 10 avec 2D? On va peut-être pas donner les réponses, on va les laisser chercher. Peut-être qu'ils vont nous envoyer des réponses sur WhatsApp. Hein. Et on se garde les dernières minutes pour un problème pour les 7-8 ans. Mais ça va remuer les méninges un peu des plus grands aussi. Hein. On a 3D à jouer. Alors, écoutez bien, pendant que les plus petits cherchent comment obtenir 10 avec 2D, on passe à un autre problème un peu plus complexe. On a 3D à jouer qui ont été lancés. C'est bien ça, Gérard, hein ?
Voilà, et il est assez compliqué. Prenez bien le temps de l'écouter. Il faudra peut-être le lire deux fois. 3D à jouer ont été lancés. On calcule le produit des trois nombres indiqués par les faces supérieures. Le produit est 24. Alors la question, c'est qu'indiquent alors les 3D ? Et trouve toutes les solutions possibles, parce qu'il y a plusieurs solutions. Et il faut les trouver toutes.
Alors, 3D à jouer ont été lancés, ça d'accord. On calcule, on ne sait pas ce qu'il y a dessus. On calcule le produit des trois nombres indiqués sur les faces supérieures, hein, sur les faces indiquées par le dé. Ça veut dire que... On a trois chiffres. Voilà, le produit, c'est des multiplications. Hein. Et il y a 3D, donc on va avoir trois chiffres à multiplier.
Tout à fait.
Trois chiffres à multiplier. Et vous nous avez dit que le produit, ça doit être combien déjà ?
C'est 24.
C'est 24. Bon, donc on s'imagine les 3D, là. Il y a trois chiffres qui s'affichent avec les petits points. Et ça doit faire 24. Et il y a plusieurs solutions possibles.
Attention, les chiffres, ça ne peut être que 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah bah oui, on est bien avec des dés.
Que les chiffres, ouais. Voilà.
Alors, comment on procède ?
Alors, la façon de procéder, si on savait sa table de multiplication par 2, par exemple, on voit que 24, c'est 2 fois 12. Donc, on se dit, c'est 2 multiplié par 12, mais le 12...
Et il n'existe pas. Il n'y en a pas.
Il n'existe pas. Mais on peut se dire que le 12, c'est 2 fois 6.
Ah,
on remplace le 12 par 2 fois 6. Donc, on a 2 multiplié par 2 multiplié par 6.
Et là,
alors, 2 multiplié par 2, ça fait 4. Et 4 multiplié par 6, ça fait 24.
C'est ça, 6 fois 4, 24. Donc on a déjà une des solutions.
Une des solutions, c'est 2, 2, 6.
Voilà, 2 fois 2 fois 6.
Mais si on veut, mais il y en a d'autres. Vous savez, j'avais démarré tout à l'heure en disant que 24, si on sait ses tables, on sait que 2 fois 12 égale 24. Mais le 12, là, on sait aussi que c'est 3 fois 4. 3 fois 4 égale 12. Donc on remplace le 12 par 3 multiplié par 4. Et si je mets mes trois nombres l'un derrière l'autre, on a 2 multiplié par 3 multiplié par 4.
Et ça donne aussi 24.
Et ça donne encore 24.
Et il y a une dernière solution. Alors, il nous reste quelques secondes pour la donner, hein, Gérard.
Alors, la
pendule, solution, c'est aussi du calcul. Hein.
Voilà. C'est que 24, c'est une fois 24.
Oui.
Donc, on peut prendre le 1. Un dé peut avoir 1.
Ouais.
Et pour avoir 24, on sait ses tables. 6 fois 4, 24.
Ouais, ça, on l'a vu tout à l'heure.
Donc, ça fait 1 multiplié par 6 multiplié par 4.
Exactement.
Et on
arrive à 24. Donc, on avait 3 solutions. 2 fois 2 fois 6, 2 fois 3 fois 4, 6 fois 4 fois 1. Merci beaucoup, Gérard, pour ce problème. Vous avez bien secoué notre cerveau aujourd'hui. Hein. On vous retrouve vendredi. Vendredi, il n'y aura pas de mathématiques avec vous. Ça va être les habitats du monde, les différentes façons de construire des habitations. Et en attendant, l'histoire du jour, on va tous se lever, non pas pour secouer notre cerveau, mais notre corps avec Kids. Très bonne journée à vous, Jean-Marc.
Au revoir.
Gérard, pardon.
Oui, au revoir.
Très
à
bonne
bientôt.
Journée, Gérard. We'll be right back. Vous écoutez 7 milliards de voisins, l'école à la radio, sur RFI du lundi au vendredi. Et tout de suite, une histoire racontée par Héloïse Auria, Le Pagne aux oiseaux blancs d'Elisa Vilbrun, publiée chez Planète J'aime lire.
Je m'appelle Elisa. Je vais inventer une histoire.
Il était une fois...
Le Pagne aux oiseaux blancs. Un roman écrit par Elisa Vilbrun. Ce matin-là, la maîtresse nous avait donné un devoir pas comme les autres. Raconter le métier de nos grands-parents. À la récré, avec mes amis Wibléou et Gaspard, on n'entendait plus parler que de ça. Docteur, vendeuse de claquelots, professeur, taximan. J'interrogeais à mon tour Gaspard. « Et toi, tu vas raconter quoi ?» Il me répondit avec fierté. « Réparateur d'avions. » Fasciné, j'allais réclamer plus de détails, quand Wibléou partit soudain en courant. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» m'étonnais-je. Gaspard fixa ses pieds couverts de poussière ocre et bafouilla. « Wibléou n'aura pas d'histoire à raconter, déniant. »« Mais pourquoi ?» demandai-je. Mon ami continua toujours aussi gêné. Wibléou vit chez sa tantie. Sa vraie maman est morte quand elle était petite. Wibléou ne connaît pas ses grands-parents. Ils n'ont jamais accepté que les parents de Wibléou vivent ensemble. Ils étaient trop différents. Cela m'a attristé pour Wibléou. Je repensais à ce que maman me disait toujours. Il faut savoir d'où l'on vient pour aller loin. On est parti chercher Wibléou qui se cachait derrière le bâtiment des CM2. En nous voyant approcher, elle essuya vite ses yeux. On resta un moment à peser nos mots comme des vendeuses d'arachides, puis Wibléou finit par soupirer. « Tant pis, je ne rendrai pas mon devoir !» Gaspard s'exclama, affolé. « Mais maîtresse va te trucider !» C'était tellement injuste pour Wibléou. On ne pouvait pas laisser faire ça. Le samedi suivant, j'ai demandé à maman de nous emmener au marché. Wibléou ne se souvenait que d'une chose. Son père avait rencontré sa mère en achetant un pagne au grand marché où elle travaillait avec sa maman. Avec un peu de chance, la grand-mère de Wibléou y tenait toujours une boutique. Nous sommes entrés dans le marché. La bonne odeur de beignets se mêlait à celle des fientes de poulet, tandis que les couleurs des piments sur les étals nous piquaient déjà les yeux. Maman nous prévint. « J'ai des courses à faire par là. » « Vous ne vous éloignez pas trop, d'accord ?» On hocha la tête sagement, puis quand elle s'éloigna, Wibléou reprit. Ma mère portait souvent un pagne bleu avec des oiseaux blancs, un tissu très rare que seule vendait ma grand-mère. Wibléou avait la voix aussi lourde que la chaleur qui régnait sous le toit de tôle. Je m'exclamais d'un ton plus léger. « Cherchons un pagne bleu avec des oiseaux blancs, alors !» On allait se mettre en chasse quand un vieux qui nous écoutait de loin nous barra soudain le passage. Son visage dépassait à peine de son boubou décoré de demi-soleil. Il essaya de se saisir de Wibléou et on se mit à courir pour lui échapper. Quand on s'arrêta enfin, sûr de l'avoir semé, des dizaines de pagnes aux oiseaux nous entouraient. Gaspard s'écria « Wibléou, regarde !» Notre ami contempla les tissus. Amusés, les marchandes affluèrent comme une nuée de tisserins et se mirent à se moquer de nous. « Alors, mes petits, lequel de vous devez épouser cette go ?» Gaspard et moi, on se regarda bizarrement. On n'avait que 8 ans, on était beaucoup trop jeunes pour se marier. Une des femmes reprit. « Petit, tu sais quand même que les dessins sur les pagnes racontent des histoires, comme tes bandes dessinées. » Un attroupement s'était formé autour de nous. On allait partir quand soudain le groupe de femmes se fendit en deux. Le démon au demi-soleil nous avait retrouvés. Le vieux se tenait devant nous, menaçant, quand il s'exclama d'une petite voix aiguë. « Que me voulez-vous ?» En réalité, le vieux était une vieille. Elle sortit soudain un morceau de tissu bleu et blanc qu'elle portait en collier, Et Wibléou cria de surprise. Il s'agissait du pagne de sa maman. Le visage de la vieille apparut. On aurait dit que Wibléou se regardait dans un miroir. Sauf qu'elle était caramel et la vieille chocolat. Je rompis le silence qui nous enveloppait. « Grand-mère, Wibléou est votre petite fille !» La vieille fit aussitôt demi-tour et s'en alla. On ne pouvait pas avoir fait tout ça pour rien. Avec Gaspard, on se mit à l'attaquer comme deux moustiques. « Grand-mère, revenez ! Wibléou est la plus intelligente de la classe et la plus jolie fille de toute l'école. Elle met des raclées aux garçons, plus courageuse que nous même !» Là, on se dévisagea avec Gaspard, surpris de tout ce que l'autre venait de dire. Tourmentée de toutes parts, la vieille avait fini par s'arrêter aussi, mais pas à cause de nous. Devant elle, il y avait maman. Je m'attendais à me faire sacrément gronder. Embêter une vieille dame, ça ne se faisait pas trop à la maison. Mais le regard dur de maman n'était pas pour moi. Il était pour la vieille. Maman s'exclama. « Grand-mère, le zèbre ne doit pas repousser son petit, même s'il n'a pas les mêmes zébrures. » La vieille baissa la tête. Maman continua d'une voix plus douce. « Grand-mère, c'est avec le vieux pagne qu'on tisse le nouveau. » Maman s'y connaissait en proverbe. Et là, je compris que le vieux pagne, c'était la grand-mère, et que le nouveau, c'était Wibléou. La vieille aussi avait compris, car lentement, elle revint sur ses pas, et elle posa sa main sur la joue mouillée de notre amie. Elles restèrent un moment comme ça, sans rien se dire. Puis la vieille passa le morceau de pagne autour du cou de Wibléou et murmura « Viens me voir tantôt, petite. Je te montrerai comment je vendais des pagnes avec ta mère. » On avait réussi. Maintenant, Wibléou avait une histoire à raconter à maîtresse Tra.
À la mise en onde, Romain Dubrac, avec la voix d'Héloïse Auria. Le pagne aux oiseaux blancs a été écrit par Elisa Vilbrun, publié chez Planète J'aime lire, Bayard Afrique. Elisa Vilbrun, vous l'avez déjà entendue d'ailleurs dans cette émission, c'est une auteure jeunesse française qui habite en Côte d'Ivoire et vous la retrouvez régulièrement dans Planète J'aime lire. Elle écrit des histoires à partir d'un groupe d'amis, Dégan, Wibléou, Gaspard, et elle a notamment aussi écrit une série de romans Yamé dont 4 tomes sont déjà sortis. Allez, on file, ou plutôt non, on reste à Abidjan. On part retrouver le coach Didier Akouété qui nous parle d'économie pour les plus grands, pour les étudiants, futurs entrepreneurs et les autres.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Le coach Didier Akouété en direct d'Abidjan qui relie ses manuels d'économie pendant que les avions sont cloués au sol. Mais c'est pour vous aider à y voir plus clair en ces temps de crise. Bonjour Didier Akouété.
Bonjour Emmanuel, qui nous revient d'une semaine de pause, dirait-on. Hein.
Quelques jours de repos, on ne peut rien vous cacher. Président d'Afrique Search, qui lui ne se repose jamais, Didier Akouété. Alors vous revenez aujourd'hui dans cette chronique sur le pilier de toute entreprise commerciale, finalement, c'est le modèle économique. Ce n'est pas du tout un concept abstrait, on dit aussi en anglais « business model ». Qu'est-ce que c'est exactement ce modèle économique ?
Alors, c'est vrai, le terme modèle économique est très à la mode hein, depuis quelques années. On a dit parfois dans l'émission avec les startups, et on ne parle que de ça. Et en fait, pour faire très simple, le modèle économique ou business model, c'est la manière dont une entreprise va gagner de l'argent ou va générer de la rentabilité. Donc, si ce business model n'est pas bien défini, ou s'il ne se démarque pas suffisamment du concept des concurrents, les chances de réussite sont un peu moindres hein, pour l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire qu'un business model reste figé. Hein. C'est une stratégie qui peut évoluer, qui peut changer selon l'évolution du marché, donc s'adapter au marché. Oui. Donc il ne faut pas que ce soit gravé dans le marbre une fois qu'on l'a défini.
Alors,
mais bon, souvent, à côté de ça, je dis on génère des revenus, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des charges. Hein. Donc
bien
dans
sûr.
Le business model, il faut aussi calculer les coûts et les charges qui sont associées au business.
Notamment, par exemple, les salaires. Certains confondent parfois business model, business plan. C'est vrai qu'avec toutes ces expressions françaises, alors business model, c'est modèle économique en français. Business plan, c'est
plan d'affaires en français. Ce sont deux choses différentes, Didier ?
Oui, ce sont deux choses différentes. Le modèle économique, comme nous l'avons dit il y a peu, c'est comment on génère du profit, alors que le business plan ou le plan d'affaires, c'est le document qui présente la stratégie de l'entreprise, hein, ses implications financières. Et en fait, le business model est le cœur du business plan. Parce que c'est le point de départ. C'est l'idée originale qui permet à l'entreprise de se démarquer et finalement d'y élargir. Donc, à partir du business model, l'entrepreneur peut construire son business plan qui va inclure les éléments comme le bilan provisionnel, le compte de risque d'approvisionnel, le plan de trésorerie, le tableau de financement, etc. etc. Mais le business model est au cœur du business plan.
Ouais. Alors je sais que dans l'émission des jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent, quand vous faites le coach, Didier, à côté, parfois je vous vois feuilleter comme ça le business plan, un peu perplexe, un peu agacé, et vous dites, mais dans le fond, mais c'est quoi votre business model ? C'est-à-dire qu'un business plan qui ne fait pas bien apparaître clairement le business model, il y a comme un problème. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil ? Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question pour bien définir son business model ?
Alors, il y a plusieurs questions à se poser. C'est vrai, quand je vois des business plans, je dis, mais je ne sais pas comment il va gagner de l'argent, parce que certains entrepreneurs ne savent pas qui est leur client en réalité. C'est-à-dire, quels sont les clients potentiels ? Quelles sont leurs attentes ? Quel est leur pouvoir d'achat ? Donc, combien ils sont prêts à mettre pour acheter un produit, hein, comment est-ce qu'on répond aux attentes de ses clients avec un coût qui permet de gagner de l'argent ? Comment on amène le produit vers le client ? Donc, quelle est la solution pour distribuer le produit ? Comment est-ce qu'on va fidéliser ce client ? Quels sont les fournisseurs, les partenaires ? Qu'est-ce que ça va me coûter ? Quel est le meilleur moyen pour capturer la valeur ? Donc, c'est vraiment beaucoup de questions que les entrepreneurs ne se posent pas assez. Et donc, il est très important de faire ce qu'on appelle l'état des lieux du marché, l'état de la concurrence, pour savoir où on se positionne pour faire la différence. Et c'est vraiment autant de questions que les entrepreneurs doivent se poser avant de bien définir leur business model.
Vous avez parlé de chaîne, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut gagner à toutes les étapes de la chaîne de valeur ? Est-ce qu'il faut déterminer à un moment, un endroit où c'est là qu'on va gagner de l'argent ?
Alors, dans l'absolu, on peut gagner à tous les niveaux de la chaîne. Mais il faut se poser la question de l'endroit de la chaîne où on peut être très fort, où on peut apporter une valeur ajoutée, un avantage comparatif. Si par exemple, il y a parfois des jeunes qui les appellent en disant « je suis en train de planter des tomates, je suis en train de planter des légumes, mais il faut que je les vende, mais je n'arrive pas à les vendre. » Et parfois je leur dis « mais attention, dans la chaîne, est-ce que vous voulez plutôt produire ? Est-ce que vous êtes fort pour plutôt distribuer ? Est-ce que vous êtes fort pour transporter ? Vous êtes fort pour stocker ?» Donc, si on ne se pose pas bien la question de savoir à quel niveau de la chaîne nous on veut se positionner et capter la valeur qu'on crée, selon aussi nos capacités, c'est très compliqué de pouvoir gagner sur toute la chaîne. Parce que on ne peut pas gagner sur toute la chaîne en général, ou en tout cas, on ne gagne pas autant sur toute la chaîne.
Ouais. Donnez-nous des exemples de business model cohérents, lisibles.
Oh, il y en a une flopée. Hein. Je vais peut-être en prendre deux ou trois selon le temps dont on dispose. Il y a un modèle qui est très simple qu'on appelle le modèle freemium. Free comme gratuit et mium. Et en fait, le freemium consiste à proposer un service de base gratuit tout en proposant des services ou produits complémentaires qu'on va facturer. Hein, c'est un modèle qui est très présent sur Internet. La semaine dernière, Logipag avait appelé Dakar. Il proposait des formations en ligne gratuitement. Et une fois qu'il voulait les vendre, les gens ne voulaient plus payer. J'ai dit, ben non, maintenez le principe de la gratuité, mais ajoutez des services, des prestations payantes qu'ils vont acheter. Ou même, vous pouvez même faire de la publicité en ligne parce que vous avez suffisamment de visiteurs pour générer des liens par la pub, proposer des formations plus sophistiquées que vous pouvez vendre, etc. Donc ça, c'est un modèle qui est très répandu et qui demande un peu de temps, mais qui marche très très bien. Il y a un autre modèle qui est le modèle qu'on appelle le modèle de commissionnement. En réalité, c'est très simple. C'est-à-dire que vous mettez en relation un prestataire et un client et vous prenez une commission au passage. Vous ajoutez une petite commission qui vous fait vivre. C'est vraiment le modèle des sociétés qui font la livraison. À Dijon, par exemple, j'en parlais souvent, on voit des mobilettes Glovo un peu partout, derrière dans d'autres. Et en fait,
qui livrent des repas
dans un restaurant.
C'est ça.
Exactement.
Il y a une commission, mais il y a un service quand même en même temps.
Exactement, il y a un service, mais il peut aussi prendre une commission chez le restaurateur, parce que le restaurateur, en temps normal, n'aurait peut-être pas vendu à ce client. Donc, il peut prendre une commission au passage, et puis il rend un service et il facture également le service. Donc, il peut gagner à deux niveaux. Alors, il y a un autre modèle qu'on appelle...
Donc, la chaîne de valeur, cette entreprise-là, Glovo, s'est placée sur la partie transport. Hein, on est bien d'accord.
Exactement.
Mise en relation.
Il fait la mise en relation. Donc, il crée l'activité de mise en relation, mais il gagne
entre le restaurateur et le consommateur final.
Et le consommateur. Donc, il gagne, on va dire, sur deux niveaux. Il y a un modèle qui est aussi intéressant, qu'on appelle le modèle de l'APA ou de l'hameçon. Et en fait, c'est très simple.
Le modèle de l'APA ou de l'hameçon, oui.
C'est ça. On n'a pas de quelqu'un. Donc, on lui propose un produit à un prix très attractif. Et puis ensuite, on lui vend des accessoires, des compléments. Et c'est le modèle type des imprimantes. Vous savez, on a tous des imprimantes chez nous, oui. Et des imprimantes que vous achetez très peu cher. Et puis après, on vous vend les cartouches périodiquement. Et vous vous rendez compte que les cartouches sont aussi chères que l'imprimante.
C'est ça.
Et vous achetez tellement de fois les cartouches que vous auriez pu acheter 5 imprimantes.
C'était la même chose aussi pour une célèbre cafetière qui avait produit des clients captifs. Mais c'est moins le cas maintenant. Merci beaucoup Didier Acoté pour cette belle leçon de business model, de modèle économique. On vous retrouve cette semaine, on vous retrouve jeudi. Les voisins, les voisines, que vous soyez d'ailleurs étudiants en business ou entrepreneurs, vous pouvez poser toutes vos questions au coach pour rebondir après la crise, hein, notamment. 33 1 84 22 71 71. Très bonne journée à vous, à Abidjan,
merci.
Didier Acoté.
Merci Emmanuel, à bientôt.
Et quant à nous, demain, suite de l'école à la radio, il y aura une autre histoire racontée aux enfants pour rêver, pour apprendre de nouveaux mots et bien sûr... une enseignante. À demain !